sous le paysage, dans les collections du musée Quai Branly Jacques Chirac. Avec Magali Mélandry, Aurélien Gabory, Constance de Montbrison, Steve Bourget. Enregistré le 23 septembre 2024.
Nous sommes présentement dans ce qu'on appelle ici, sur le plateau des Amériques, la boîte à musique.
Steve Bourget, responsable des collections Amériques.
C'est-à-dire un ensemble de trois vitrines qui regroupent des instruments musicaux de l'Amérique du Sud, spécifiquement du Pérou, mais surtout du Pérou ancien. Alors, il y a deux grands groupes qui sont représentés et deux grandes régions qui sont représentées. La première région est une région qui se situe au sud de Lima. Donc, on va prendre Lima comme le point de repère. Et la région sud de Lima est marquée sur la côte pacifique par un désert extrêmement aride qui s'appelle le désert d'Atacama. Dans ce fameux désert d'Atacama, plusieurs cultures se sont développées. La culture Nazca, ce sont ceux qui ont créé notamment les fameux pétroglyphes, les fameuses lignes de Nazca qui servent, semble-t-il, aux soucoupes volantes à atterrir au Pérou. Les Nazca est une société agricole qui a vécu sur la côte nord, pas sur la côte nord, mais sur la côte sud du Pérou entre 100 et 700 après Jésus-Christ. Alors les Nazca ont fait non seulement les fameuses lignes de Nazca, mais surtout ils ont développé une société agricole dans des conditions difficiles, je dirais, puisque non seulement cette région est aride, mais en plus, elle est pauvre en eau, c'est-à-dire les rivières sont la plupart du temps ce qu'on appelle au Pérou des quebradas, c'est-à-dire des rivières asséchées qui ne vont contenir de l'eau que lors des sporadiques pluies qui sont provoquées dans les Andes durant la saison humide. Alors, les Nazca ont développé une science, une technologie, je dirais, hydraulique, très sophistiqués. Ils vont en fait remonter à l'intérieur de la vallée et vont creuser un puits jusqu'à une nappe phréatique et ils vont tirer l'eau de cette nappe phréatique et vont la diriger vers les champs. Mais ils ne vont pas la diriger en utilisant des canaux d'irrigation classiques, c'est-à-dire des canaux d'irrigation directement sur le sol, mais plutôt ils vont créer en fait des tunnels dans la terre qui va permettre d'amener cette eau à différents points de résurgence où les champs agricoles vont être préparés. Et cette technique, on l'appelle la technique des puquios, et c'est une technique qui permet en fait de réduire l'évaporation de l'eau par le soleil, par les conditions climatiques de la côte sud du Pérou. Donc c'est vraiment très développé. Donc, c'est une culture dans des une culture dans des conditions arides, mais en même temps dans un milieu, de terrain, de conditions agricoles extrêmement riches, puisque les zones désertiques qui n'ont pas été lavées par les eaux, les eaux incessantes des pluies, gardent leurs minéraux. Alors, aussitôt qu'on met un peu d'eau dans ce désert, les plantes poussent très facilement. Donc, on a d'un côté cette adaptation à des conditions assez exceptionnelles, assez difficiles, mais aussi ils vont créer un art religieux important qu'on retrouve aussi bien sur la céramique que nous avons ici, sur les textiles et aussi sur les fameux géoglyphes, c'est-à-dire ces fameux grands dessins qu'on retrouve dans la plaine de Nazca et dans d'autres régions qui sont près de la région de Nazca. Donc, les Nazca vont créer ces fameux grands motifs sur le sol, dans le désert, de façon assez simple. C'est-à-dire, le motif lui-même, il est créé tout simplement en dégageant la pierre brûlée au soleil qui est un peu partout dans le désert pour exposer le substrat qui est clair. Alors, il crée ces lignes tout simplement en créant un chemin, si vous voulez, un petit chemin tout simplement tout au long du désert. Et ce qu'on a découvert, c'est que ces fameux géoglyphes ne servaient pas aux soucoupes volantes à atterrir, mais en fait, étaient des motifs certainement religieux, puisqu'ils sont représentés sur les céramiques, sur les textiles. Ils sont représentés dans les contextes funéraires, mais ce sont des motifs tels que le colibri, des plantes, des fois même un singe, et servaient probablement pour représenter les croyances religieuses. Et ils utilisaient, semble-t-il, puisqu'on a trouvé sur ces fameux petits chemins qui créent les géoglyphes, des évidences qu'ils utilisaient finalement ce chemin un peu comme un parcours rituel, puisqu'on a trouvé des céramiques et on a trouvé des instruments musicaux à plusieurs endroits qui sont de facture Nazca. Donc, il semble qu'ils utilisaient ces fameux géoglyphes pour danser et faire des rituels liés certainement à l'eau, à la fertilité. Donc, nous avons ici dans ces vitrines une belle sélection de flûtes de Pan en bois, faites de roseaux en bois et en tissu, en coton, mais aussi faites en céramique. Et ce sont le genre d'objets qu'utilisaient les Nazca pour s'accompagner lors de ces rituels désertiques, je dirais. Alors, nous avons chez les Nazca différents instruments musicaux. Ils sont présentés ici, d'ailleurs, dans cette micro-exposition, je dirais. Les fameuses flûtes de Pan, bien sûr, mais aussi des tambours, des flûtes et des ocarinas. Donc, c'est à peu près l'étendue des instruments musicaux qu'on retrouve chez les Nazca. Au niveau de la forme musicale, c'est beaucoup plus difficile à évaluer puisqu'on ne connaît pas leur tradition musicale. Mais les spécialistes ont découvert qu'ils utilisaient une gamme pentonale, donc de 5 niveaux sonores dans ces instruments musicaux. Donc, le deuxième groupe que nous avons dans cette boîte à musique, je dirais, c'est le grand groupe des céramiques qui font partie des groupes culturels du nord du Pérou, c'est-à-dire une autre région désertique, très différente de celle du désert d'Atacama. Nous sommes maintenant dans le désert de Sechura. Et c'est un désert, bon, tout aussi sec que celui du désert d'Atacama, mais la différence principale, c'est que les vallées de la côte nord du Pérou ont des rivières qui sont relativement petites, mais régulières. C'est-à-dire qu'il y a un apport d'eau constant ou à peu près dans chacune des vallées de la côte nord du Pérou, ce qui a permis aux sociétés de la côte nord de se développer de façon beaucoup plus intensive, avec des systèmes d'irrigation à ciel ouvert, des canaux d'irrigation et surtout avec des systèmes agricoles beaucoup plus imposants. Donc, plus de ressources, plus de richesses, plus de sociétés complexes, etc. Donc, évidemment, les ressources économiques déterminent énormément l'ampleur des sociétés. Alors, la côte nord du Pérou est une région peuplée de sociétés qui vont bâtir des temples gigantesques, des rituels funéraires complexes, et toutes sortes d'autres activités, dont l'or du Pérou, je dirais, les objets somptuaires en métal doré et argenté, se retrouvent presque essentiellement dans cette région, au Pérou. Donc, c'est vraiment une région très riche, très intéressante du point de vue archéologique, différente de celle de la région des Nazca, je dirais. Alors, nous avons ici un groupe de céramiques qui sont en fait ce qu'on appelle des vases sifflets. Ce sont des bouteilles dans lesquelles on a aménagé un mécanisme, une petite bille vide avec une ouverture qui permet de faire ce son, ce sifflement à l'intérieur de la bouteille. Donc, il suffit de souffler dans l'embouchure de la bouteille, dans le goulot, si vous voulez, et on entend le son qui est émis par la sculpture qui fait partie de la bouteille. Donc, ce sont des bouteilles qui ont appartenu à plusieurs cultures différentes. Les plus anciennes appartiennent à la culture Mochica, qui se développe entre 0 ou 100, si vous voulez, jusqu'à 600 après Jésus-Christ. Et on retrouve aussi des céramiques, des descendants des Mochica, c'est-à-dire la culture dans la région de la vallée de Moché qu'on appelle les Chimous, et plus au nord, la culture Sicane, connue aussi sous le nom de Lambayeque. Donc, ce sont des instruments musicaux, certes, mais aussi ce sont des offrandes, et ce sont des offrandes qu'on retrouve systématiquement dans des contextes funéraires. C'est-à-dire qu'il est fort probable que ces objets servaient à accompagner le rituel funéraire lors de la mise en terre du défunt avec toutes sortes d'offrandes, des plats, des vases, de la nourriture, du textile. On mettait aussi dans les tombes ces vases sifflets. Donc, le sifflement est lié au rituel funéraire. Et d'après les scènes iconographiques qu'on retrouve sur certaines de ces bouteilles, notamment dans la culture mochica, il semble que le sifflement est éminemment associé à ce voyage dans le monde des morts. C'est-à-dire, c'est la façon d'annoncer sa présence et de siffler au lieu de parler. Donc, c'est vraiment une approche qui est différente de celle des Nazca, où on retrouve un rituel plutôt agricole, agraire, bien que ces objets aussi vont éventuellement être déposés avec les morts, tandis que dans le cas de la côte nord du Pérou, c'est vraiment des rituels qui semblent être dédiés beaucoup plus au rapport à la mort et au rapport surtout à l'au-delà, c'est-à-dire l'endroit où l'âme des morts va se diriger, si vous voulez.
Donc, on est ici dans une salle qui rassemble des pièces de la culture Dogon.
Aurélien Gabory, responsable des collections Afrique.
Alors, en fait, ce sont des objets qui proviennent du Mali. Donc, on est en Afrique, sur le continent africain, en Afrique de l'Ouest, en plein cœur de l'Afrique de l'Ouest, dans une zone semi-désertique et très aride, qui connaît, en fait, une saison des pluies très importante. Donc, ce qui va changer le paysage à un moment et qui est heureusement arrosé par le fleuve Niger hein, qui traverse cette zone sahélienne à cet endroit et qui permet quand même d'avoir aux abords du fleuve des cultures vivrières pour les populations qui sont établies là. Alors, ce que les objets nous disent de cette région, puisqu'en fait, à travers les objets, on peut comprendre un certain nombre de choses du paysage dans lequel habitent ces populations. Ce que les objets Dogon nous disent de la région, c'est en fait que c'est une région où il n'y a pas beaucoup d'arbres, apparemment. Les objets sont petits, de taille à peu près, en général, entre 20 et 50 cm de hauteur, alors qu'on connaît des pièces beaucoup plus importantes hein, pour le reste de l'Afrique, avec des dimensions beaucoup plus impressionnantes. On a quand même, bien sûr, des grands arbres qui permettent de construire des maisons, et qui sont utilisés donc, pour l'architecture, hein, ce qui est, donc, les plus grands morceaux de bois sont utilisés dans ce but-là. Et après, on a des petites pièces de dimension plus réduite pour tout ce qui est culte et objet usuel. Les Dogons sont établis dans une zone qui est très particulière dans cette région assez aride, c'est qu'ils sont sur la falaise de Banyagara, donc c'est une région qui est plutôt au sud-est du Mali, proche de la frontière avec le Niger et le Burkina Faso, dans un grand espace. Et il y a cette particularité des falaises de Banyagara qui sont une très très longue falaise comme ça qui traverse le paysage avec une plaine en bas, la plaine qui va jusqu'à la ville de Djéné, hein, Djéné qui est placée sur le Niger, et la falaise est plutôt éloignée du fleuve, et au-dessus de la falaise on a une région de plateau sur laquelle sont vraiment établies aussi les populations Dogon. Alors c'est une zone qui est aride, alors elle n'est pas désertique, elle est vraiment aride, semi-aride, avec des arbres qui sont de petite taille, des buissons, des cultures qui sont organisées en fonction de la saison des pluies. Et puis il y a cet élément aussi qui est très important et qu'on a du mal à comprendre ici quand on est dans un musée avec des objets qui sont dans des vitrines, donc on ne voit pas du tout d'où peuvent venir bien sûr les objets, mais quand en fait on fait des recherches sur ces pièces, on se rend compte que ce qui est lié à leur conservation, et on est là avec des pièces qui sont très anciennes hein, pour l'art de l'Afrique, je reviens dessus. Pour ce qui est de leur conservation, le paysage a participé à la conservation de ces objets. Alors, de quelle façon ? La falaise de Banyagara est creusée de grottes naturelles qui sont utilisées par les populations depuis longtemps pour en fait en faire des zones sanctuaires, des zones d'inhumation, avec des objets qui sont liés aux personnages qui sont placés dans ces espèces de cimetières dans la falaise. Et là, on a des objets qui peuvent dater du 14e, 15e, 16e siècle, ce qui est très ancien pour l'art de l'Afrique. Pourquoi ? Parce que, et ça, c'est aussi à cause du, d'une certaine façon du paysage africain, on a le sol de l'Afrique qui est très riche en, en fer et très acide. C'est ce côté très rouge hein, de beaucoup de sols africains. Donc des sols acides qui attaquent bien sûr le bois et aussi le métal. Donc les pièces les plus anciennes qui ont pu être enfouies dans le sol ont disparu avec le temps. Alors je ne parle pas bien sûr des objets du 19e et du 18e siècle hein, pour certains, mais dans les périodes antérieures, oui. Et puis il y a aussi, pour des zones, même au Mali, il y a des saisons des pluies, donc ça veut dire qu'à un moment, il va y avoir de l'humidité, des champignons qui vont se développer, qui vont attaquer aussi tout ce qui est en bois, et il y avait énormément de pièces en bois. Et puis aussi, bien sûr, des insectes qui vont ronger, les insectes xylophages, qui se nourrissent de bois, et qui vont attaquer la surface et l'intérieur du bois, des arbres, mais aussi des sculptures qui ont été réalisées, et aussi des architectures. Donc on a cette implication du paysage dans la conservation des œuvres, qu'on ne peut pas soupçonner quand on voit les œuvres, quand elles sont présentées au musée, puisque là, le temps s'arrête et l'extérieur s'arrête. Donc on les préserve de tout environnement, quel qu'il soit, y compris historique d'ailleurs, pour les conserver le plus fraîchement pour les générations qui suivent. Voilà. Alors, on est sur cette falaise de Banyangara avec des populations qui ont choisi de s'établir là hein, de façon un peu forcée à partir de ce qui correspond à notre Moyen-Âge. Les populations qui étaient installées dans la plaine de Djéné, donc dans les plaines irriguées par le fleuve de Niger, les populations se sont réfugiées sur la falaise puisqu'elles étaient l'objet de razzias, d'attaques et de conversion forcée, puisque c'était quand même des populations animistes, et de conversion forcée à l'islam par les cavaliers qui venaient de zones plus au nord, en particulier du Maroc et de la Mauritanie, et qui ont poussé ces populations à se réfugier dans ces zones très arides où les chevaux ne pouvaient pas accéder facilement. Donc ces populations qui sont venues des plaines, des Nyongom, de Djéné, donc des Djénenké, ont rencontré des populations Télèm, qu'on appelle Télèm. Télèm, quand on traduit, ça veut dire ceux qui étaient là avant nous. Et en fait, au cours du 15e, 16e siècle, donc les Télèm, ceux qui étaient là avant eux, c'est-à-dire avant les Djénenké, les Nyongom, etc., de la plaine, toutes ces populations se sont mélangées et ont en fait donné l'identité d'Ogon. Voilà, qui depuis est quand même très, très connu et très établi et correspond aussi à un style dans la production plastique de cette région de l'Afrique. Et on se rend compte qu'un certain nombre de sculptures font aussi une évocation du paysage avec des personnages qui sont donc sculptés dans des morceaux de bois relativement réduits, hein, qui ont été visiblement sectionnés pour faire plusieurs morceaux. Et on est frappé par l'iconographie de ces pièces qui montrent clairement beaucoup de personnages qui lèvent les mains vers le ciel. Et parfois on a même l'idée du mouvement, parce que sur une même sculpture on a deux paires de bras, une qui est levée vers le ciel et une qui est le long du corps, et ça a été interprété par le fait que les mains levées vers le ciel étaient des invocations à faire venir la pluie qui a mené l'eau, qui était vraiment essentielle pour remplir les petits cours d'eau, les étangs, les lacs, les chutes d'eau qui se créent à partir du moment de la saison des pluies dans cette région qui est quand même assez sèche le reste du temps. Et là, en fait, au niveau du paysage, on a quelque chose d'assez étonnant, c'est-à-dire qu'on a, dans les couleurs, on passe de la saison sèche à quelque chose qui ressemble à des reliefs et des étendues très ocrées, donc c'est ce côté un peu rouge de la terre, avec des rochers très secs. Et puis la saison des pluies arrive, et là, tout commence à reverdir, et c'est absolument étonnant de voir que le paysage change de couleur après cette saison des pluies, et qu'il change même de son, puisqu'on a des chutes d'eau qui coulent de la falaise et qui arrosent donc des jardins, des petits terrains cultivés qui sont établis le long de cette falaise et au pied de la falaise. Et puis sinon, quand on n'a pas la saison des pluies, en fait, les populations sont obligées de se déplacer dans le paysage, c'est-à-dire de descendre le long de cette falaise, aller chercher de l'eau dans la plaine et la rapporter vers les habitations qui sont toujours perchées. D'où la production de très nombreux objets pour contenir aussi l'eau, donc des coupes, des bassins, etc., des calebasses qui permettent de remonter l'eau depuis la source jusqu'à la maison, l'habitation. Et puis, pour terminer, sur les grands morceaux de bois qui sont utilisés pour l'architecture, ça va servir de pilier, bien sûr, pour les maisons, et en particulier aussi pour un élément qui est assez étonnant, c'est un abri pour que les hommes discutent entre eux, donc qui est constitué de très grands poteaux de bois qui forment une fourche dans la partie supérieure, qui soutiennent des poutres, qui elles-mêmes vont être recouvertes de dizaines de bottes de tiges de mil, de tiges de céréales, donc qui viennent des cultures environnantes, ce qui permet de s'abriter du soleil, mais aussi de faire circuler l'air à travers ces bottes de tiges. Et puis, l'abri est assez petit, hein, donc les poteaux sont enfoncés dans le sol, mais l'abri sous lequel les hommes vont s'installer les oblige en fait à rester assis. Et d'une certaine façon, ils ne vont pas pouvoir se lever brusquement et s'énerver. Donc ça oblige, d'une certaine façon, à rester calme et à discuter calmement. Et ça, c'est une application assez indirecte du paysage, mais la construction est elle-même étonnante. Et à ce petit bâtiment assez fragile, au fond, assez éphémère, puisqu'il est toujours soumis aux aléas du climat, va disparaître dans le paysage, puisqu'il est entièrement composé d'éléments qu'on retrouve également dans ce paysage. Alors, le style dogon. Alors, c'est assez intéressant parce que le style dogon est en général assimilé à quelque chose de très proche de la géométrie. On a souvent des têtes qui peuvent être coniques, des coups cylindriques, des corps cylindriques également. Tous les membres sont en fait des successions de cylindres qui évoquent les bras, les jambes, le torse. La tête peut être aussi parfois à l'arrière un peu ronde et reprend en fait les fesses des personnages, hein, qui sont aussi un peu arrondis. Mais on le distingue, ce style dogon, du style Telem, qui est lui caractérisé par quelque chose de particulier, c'est-à-dire que la sculpture est recouverte d'une espèce de gangue, d'une patine qui est devenue croûteuse avec le temps, c'est-à-dire que ces sculptures avec les bras levés, par exemple, qui évoquent la vocation à la pluie, sont recouvertes d'une espèce de croûte. Elle est obtenue par le fait que les personnes qui sont chargées de ce culte vont verser sur les objets en bois une sorte de bouillie de céréales pour les nourrir, pour en fait nourrir cet esprit. Et en fait, ça va se répéter. Donc, d'une certaine façon, ça va s'accumuler sur le bois. Et puis, ça va sécher avec le temps, à devenir quasiment minéral. Et ces sculptures TLM, voilà, sont caractérisées par cette présence d'une patine très forte, qui fait même disparaître les traits du visage. Alors, les traits du visage sont sculptés, mais tous les détails disparaissent sous cette patine. Et puis, avec le temps, cette pratique a été plus ou moins abandonnée. Et les patines sont devenues plus huileuses, plus grasses, pénètrent mieux à l'intérieur du bois, ce qui donne un aspect très sombre et luisant à certaines pièces. Et puis, on arrive à des choses qui sont quand même, qui ne disparaissent pas sous cette patine croûteuse. Et on voit le style de la sculpture qui, effectivement, est très proche d'une sorte d'empilement de volumes géométriques, donc cônes, troncs, cylindres, des lignes assez brisées aussi, qui sont très impressionnantes, qui ont été découvertes par les artistes européens qui s'en sont inspirés après les années 60, hein, donc c'est pas du tout à l'origine des pièces qui ont influencé ce groupe d'artistes en Europe au début du XXe siècle, c'est beaucoup plus tardif. C'est des pièces qui n'étaient pas connues, et c'est ce style qui a été attribué au dogon. On a des poses, des positions, des proportions même qui sont assez naturalistes, mais pas vraiment un style qui cherche à rendre quelque chose de voilà, un portrait, par exemple, ou quelque chose de vériste.
Alors, nous sommes présentement au tout début de la région des Amériques, au tout début du parcours des Amériques. Notre parcours se déroule du nord au sud, alors nous sommes actuellement dans l'Arctique, et cette région est représentée par deux grands groupes, c'est-à-dire les masques et les objets de les régions de l'Alaska, et aussi des régions du Groenland. Et je vais parler surtout de la région du Groenland. C'est en fait une collection assez exceptionnelle qui vient d'une expédition scientifique française qui a eu lieu sur la côte est du Groenland entre 1934 et 1936. Et durant cette période, il y a de nombreux scientifiques de toutes sortes, dont des ethnologues qui sont allés dans cette région rencontrer les groupes Inuits du Groenland, les Amasalik, et vont travailler avec eux, vont les interviewer pendant presque deux grandes saisons et vont recueillir quelques milliers d'objets, vont échanger avec eux quelques milliers d'objets. Alors, ce sont des objets qui viennent de la culture inuite. Ce sont des objets, pour la majorité, qui datent des débuts, je dirais, de la fin du 19e jusqu'à au début du 20e siècle. Donc, entre 1850 et 1910-1920, ou à peu près. Les groupes Inuits sont l'une des grandes migrations des humains au niveau de la planète. Ce n'est pas rien. Les Inuits, en fait, vont traverser de la région de la Sibérie jusqu'à l'Amérique du Nord dans un premier temps, la région de l'Alaska. Ils vont traverser toute la région canadienne et vont éventuellement rejoindre le Groenland tout au bout de cette grande migration. Donc, c'est vraiment l'une des migrations humaines les plus importantes qu'on connaisse au niveau de l'adaptation. Quand les Inuits traversent en Amérique du Nord, ils arrivent dans une Amérique du Nord qui est déjà peuplée depuis quelques milliers d'années. Les groupes du Nord-Ouest sont fermement établis le long de la côte. Les groupes amérindiens, les grandes nations amérindiennes sont toutes placées bien au sud de la région arctique. Ils vivent dans les régions arborées, c'est-à-dire ce sont des cultures, des forêts et des plaines. Alors les Inuits vont s'adapter, eux, à la région qui est disponible, une région englacée la plupart de l'année, une région qui vit dans le noir, presque 4 ou 5 mois par année, le soleil ne se lève à peu près pas dans cette région. Mais c'est une région qui est riche en protéines. Très peu en nourriture végétale, je dirais un peu quand même, mais peu. Mais c'est aussi une région qui est extrêmement pauvre au niveau des arbres. Il n'y a pas d'arbres, donc c'est une région qui a en fait une absence presque complète de verdure, d'arbres. Le seul bois qui va être disponible, c'est du bois flotté, c'est-à-dire des troncs d'arbres qui vont être amenés par les courants océaniques plus au nord, mais qui viennent du sud. Et le reste du temps, ils doivent se débrouiller. Ce sont les plus grands bidouilleurs de la planète, d'accord? Ce sont les plus grands. Lévi-Strauss les aurait appelés des bricoleurs, je pense. Ce sont en fait des MacGyver accomplis. Il n'y a pas à mon avis, il n'y a pas aucune culture au monde qui arrive à la cheville des Inuits pour s'adapter à un milieu aussi difficile, même les aborigènes australiens. Donc, c'est vraiment des gens qui ont une intelligence absolue. C'est une culture que moi, j'appelle la culture du peu. C'est-à-dire, ils n'ont rien, mais avec rien, ils font des choses extraordinaires. Quand je dis cela, par exemple, ils vont créer des habitations qui fondent au soleil. Ils vont créer des habitations avec rien, avec de l'eau gelée. Ils vont faire ce qu'on appelle communément des igloos, ce qui n'est pas le terme. Le mot igloo ne veut dire simplement qu'une maison. Il y a un terme différent chez les groupes Inuits pour désigner ça. Ils vont faire des embarcations qui n'ont à peu près rien de bois à l'intérieur. C'est fait complètement avec des morceaux d'animaux. Donc, on va utiliser les ossements pour faire l'armature. On va utiliser la peau des phoques pour faire la peau du kayak. Alors, le kayak est dans les embarcations maritimes, à mon avis, l'embarcation la plus raffinée, la plus absolue est le kayak. Après cela, il y a d'autres embarcations, bien sûr, les pirogues, etc. Mais le kayak est vraiment un objet d'une beauté, d'une intelligence absolue, à mon avis, puisque c'est un objet qui est fait, des ressources qu'on va chasser à l'aide de cet objet. Donc, on va aller chercher les phoques avec l'objet qu'on a tiré du phoque lui-même. Mais en plus, c'est des objets qui sont faits pour un seul individu. Un homme va faire le kayak exactement à sa dimension. Donc, le trou d'homme, le trou dans lequel il s'insère pour son kayak, est fait, en fait, pour sa dimension. Il va mesurer le kayak pour son poids. Donc, il va s'étendre les bras pour mesurer son kayak. Donc, c'est un objet qui est fait, en fait, avec presque rien, qui pèse très peu. Il pèse à peine quelques dizaines de kilos. Imaginez, avec cela, il va filer sur un océan extrêmement compliqué, très froid. Ton espérance de vie, si tu tombes à l'eau de ton kayak, est de moins de 10 minutes. Donc, c'est fini. Tu tombes à l'eau d'un kayak ou d'une embarcation dans le Grand Nord, tu ne survis pas. OK, 10 minutes, c'est fini, tu es mort. Donc, un homme qui tombe à l'eau, il était considéré comme ne pouvant pas survivre, de toute façon. On n'essayait pas de le sauver. Et de toute façon, des hommes en kayak ne pouvaient pas récupérer un kayakiste qui avait tombé à la mer. Donc, pour survivre, on utilisait en fait une technologie très, très raffinée qui était distribuée entre les femmes et les hommes. L'homme faisait le kayak, c'est-à-dire l'armature, mais la femme, elle préparait la peau du phoque, elle la mordillait pour l'attendrir, pour l'assouplir, et après cela, surtout, quand le kayak était prêt à être couvert de cette peau, de ces peaux animales, parce qu'il y en avait plusieurs, elle utilisait un fil fait de tendons, et elle allait faire une couture, et elle cousait cette peau sur le kayak, mais avec une couture imperméable, c'est-à-dire une technique de couture qui était complètement imperméable et qui permettait de créer une embarcation complètement étanche aux conditions. L'homme se glissait à l'intérieur de son kayak et la femme lui avait fait un anorak. Les gens appellent ça un imperméable. En fait, le terme est faux. En fait, elle lui avait fait un magnifique habit qui était en fait une tunique que nous avons ici en présentation dans l'une des vitrines tout au fond. Et cette tunique est faite en fait d'intestins de phoques qui sont attendris, mordus. La femme, il faut vraiment aimer son homme pour lui faire un objet comme cela. Parce que la femme va passer un hiver à mordre des intestins de phoques pour les attendrir, pour les étirer. Et elle va coudre ses boyaux ensemble pour lui faire cet habit. Elle va le coudre encore avec cette fameuse couture imperméable qui est à l'épreuve de l'eau. Et en fait, il va le mettre sur son corps. Il va refermer le cordon de son capuchon tout autour de son visage, très près. Il va refermer les manches sur ses mains. Et il va surtout prendre la jupette autour, c'est-à-dire le bas de cet objet imperméable. Et il va l'attacher très serré sur son kayak. Alors, s'il tourne avec son kayak, parce qu'il y a des vagues énormes, et très souvent, ils vont chasser des phoques qui pèsent plusieurs centaines de kilos. Donc, il arrive assez souvent qu'ils vont verser avec le kayak. Mais ce qui lui permet, en fait, de rester dans son kayak, elle est bien étanche avec son habit et de retourner avec son kayak. Donc, c'est un instrument de survie extrêmement important. Donc, vous voyez, c'est ça un MacGyver de l'Arctique.
Cet épisode est soutenu par l'École des Beaux-Arts de Nantes-Saint-Nazaire, Atelier de Sèvres, Nantes Université et l'association Fieldwork Marfa.